Soyez au cœur de VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, avec vous ce matin Bagassi Koura et Anne Alberson. Bienvenue à cette édition du mercredi 25 mars 2015. Au sommaire ce matin.
En Centrafrique, le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Romaric Vomitiade, a été placé sous mandat de dépôt pour une affaire de viol sur une mineure de 16 ans à Yaloké, dans le nord-ouest du pays.
Au Burkina Faso, un juge d'instruction a été saisi dans l'affaire de l'ancien président Thomas Sankara. Thomas Sankara assassiné en 1987 dans un coup d'État.
Ouverture hier en Angola du procès du journaliste militant Raphaël Marques, l'un des opposants les plus virulents du régime de Luanda.
Et puis ce matin, escale musicale au Niger.
Magali, je chante un peu en français. Aussi. Il y a des chansons que j'ai fait pour l'Afrique, d'autres pour le commérage, d'autres pour les femmes.
Voilà, vous en saurez davantage dans quelques instants. À suivre aussi la Minute Éco, suivie des sports. Mais d'abord, le journal.
Au Burkina Faso, un juge d'instruction a donc été saisi dans l'affaire de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987 dans un coup d'État. L'information est de Beniwende Sankara, l'avocat de la famille. Il a confié hier soir à la presse que le commissaire du gouvernement du tribunal militaire leur a confirmé samedi que le dossier a été transféré à leur niveau et que l'ordre de poursuite a été donné. Le capitaine Thomas Sankara, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, a été tué 4 ans plus tard du putsch qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir.
Les chefs des 3 principaux partis d'opposition guinéens, Sélou d'Alain Diallo, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, ont menacé mardi dans une déclaration commune signée à Paris de porter dans la rue leur combat contre le pouvoir du président Alpha Condé qui a selon eux perdu toute légitimité. Selon l'AFP qui rapporte l'information, l'opposition n'est pas du tout contente de l'inversion du calendrier électoral. Le 10 mars, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avait décidé d'organiser d'abord la présidentielle le 11 octobre 2015, puis le scrutin local reporté une fois de plus en mars 2016. Les 3 opposants appellent donc à la reprise des manifestations citoyennes pour exiger la satisfaction des revendications de l'opposition.
En Angola, ouverture hier du procès du journaliste militant Raphaël Marques, l'un des opposants les plus virulents du régime de Luanda. Il est poursuivi pour dénonciation calomnieuse par 7 généraux, dont le bras droit du président angolais José Eduardo dos Santos. Jacques Aristide.
Une salle d'audience bondée mais par la suite évacuée à la requête du juge. D'importantes forces de l'ordre déployées près du palais de justice. Tous les nerfs étaient à vif hier au premier jour de ce procès très suivi en Angola comme à l'étranger. Dehors, une dizaine de jeunes armés de pancartes réclamaient la libération de Raphaël Marques. L'AFP rapporte que plusieurs ont été arrêtés. Dans son livre « Les diamants du sang, torture et corruption en Angola », Raphaël Marques, qui encourt une peine de 9 ans de prison, accuse les généraux d'avoir cautionné des crimes contre l'humanité contre la population d'une région diamantifère du pays. Parmi les 7 généraux incriminés figure un très proche du président José Eduardo dos Santos, le ministre d'État et chef de la maison militaire, le général Manuel Helder Vieira, mais aussi 2 anciens commandants en chef de l'armée. Tous contestent les accusations de violation des droits de l'homme, torture et meurtre et demandent des dommages et intérêts d'1,2 million de dollars. Le procès reprendra le 23 avril prochain.
Le Soudan du Sud a prolongé de 3 ans les mandats du président Salva Kiir et des députés. Une tentative de s'éterniser au pouvoir, affirment les rebelles en lutte contre le gouvernement de Djouba. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le plus jeune pays du monde a obtenu son indépendance en 2011 et selon sa constitution, il devait tenir des élections législatives et présidentielles avant le 9 juillet prochain. Ces scrutins ont été repoussés jusqu'à 2018. Le mandat du président Salva Kiir a été étendu de 36 mois par le Parlement, a fait savoir Thomas Wanikundu, porte-parole de la Chambre basque, cite l'AFP. Les médiateurs qui tentent d'amener le président Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, aujourd'hui chef rebelle, à faire la paix, avaient jugé le projet de prolongation des mandats de contre-productive. Réagissant à Addis Abeba, le porte-parole rebelle Lening Gundend a accusé le président Salva Kiir d'être un dictateur qui veut rester au pouvoir. Cette situation va sans doute relancer les hostilités entre les belligérants sud-soudanais qui s'affrontent dans une guerre civile depuis décembre 2013, des combats qui ont fait des dizaines de milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés.
En Libye, une voiture piégée a explosé mardi à un barrage de l'armée à Benghazi, tuant au moins 7 soldats. Une source rapporte que 2 kamikazes pourraient avoir été impliqués. Personne n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque, qui intervient alors que l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Bernardino León, a proposé un gouvernement d'union nationale afin de mettre un terme à ce qu'il qualifie de désordre de la guerre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crash de l'Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings. Les recherches interrompues pour la nuit devraient reprendre tôt ce matin dans le sud des Alpes françaises, selon l'AFP. Le président français François Hollande, la chancelière Angela Merkel d'Allemagne, le premier ministre espagnol Mariano Rajoy sont attendus sur place. L'avion qui faisait la liaison Barcelone-Düsseldorf en Allemagne s'est écrasé dans les Alpes en France, faisant 150 morts. La majorité des victimes sont des Allemands et des Espagnols. L'une des deux boîtes noires de l'avion a été retrouvée.
Le président Barack Obama s'est engagé à maintenir à son niveau actuel jusqu'à la fin de 2015 la présence militaire américaine en Afghanistan. Il a annoncé à l'issue de consultations avec le Pentagone et de ses entretiens avec les principaux leaders afghans, dont le président Ashraf Ghani, hier à la Maison-Blanche. Des détails avec Michel Joseph.
Monsieur Obama a déclaré lors d'une conférence de presse avec Monsieur Ghani que les États-Unis garderont sur place jusqu'à la fin de l'année les 9800 militaires chargés de conseiller et d'entraîner l'armée afghane. Selon le président américain, l'Afghanistan reste un pays dangereux, mais il a aussi souligné que malgré le retrait des troupes américaines, dont les effectifs avaient atteint plus de 100 000 il y a plusieurs années, l'armée nationale afghane a assumé les responsabilités sécuritaires et que le pays n'est pas tombé, contrairement à certaines prédictions. Le président Ghani et son chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, en étaient hier à leur seconde journée de consultation avec les autorités américaines. Leur visite vise à améliorer des relations bilatérales plutôt tendues entre Washington et Kaboul, après une guerre de près de 14 ans et des relations souvent difficiles avec l'ancien président afghan Hamid Karzai.
Par ailleurs, le président américain Barack Obama a affirmé qu'il est difficile d'imaginer une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son opposition à un tel projet lors de la campagne électorale à l'issue de la rencontre à la Maison-Blanche avec le président afghan Ashraf Ghani. M. Obama a déclaré que le premier ministre Netanyahu a mis tellement de conditions pour une solution à deux États qu'il sera impossible d'y parvenir de sitôt. Le leader américain a réitéré son opinion selon laquelle deux États, israéliens et palestiniens côte à côte, est la meilleure façon de parvenir à la paix dans la région.
Les États-Unis mènent des vols de reconnaissance pour aider les forces irakiennes à reprendre la ville de Tikrit au groupe État islamique. C'est ce qu'a indiqué mardi un haut responsable américain cité par l'AFP. Selon la même source, des responsables américains ont également indiqué sous couvert d'anonymat que Washington étudiait la possibilité de mener, dans les jours ou semaines qui viennent, des frappes aériennes pour aider les forces gouvernementales. Celles-ci sont engagées dans leur plus importante opération depuis que les djihadistes se sont emparés de larges pans de territoire à la mi-2014.
Et puis le président yéménite Abd Rabo Mansour Hadi a exhorté hier le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter une résolution contraignante afin de stopper l'avancée des miliciens houthis et prévenir une agression contre Aden qu'il juge imminente. C'est ce que rapporte l'AFP qui indique que les forces hostiles au président tentaient mardi de resserrer l'étau sur Aden, grande ville du sud du pays où est retranché le président Hadi.
Enfin en France, Lassana Batili, né au Mali et naturalisé français, après avoir sauvé des otages du djihadiste Hamedi Coulibaly lors de la prise d'otages du supermarché Hyper Cacher, a reçu mardi la médaille du courage du centre Simon Wiesenthal.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco Et ce matin, c'est avec Jean-Roger Bion.
À Madagascar, grève à la grande mine de nickel d'Ambatovi, contrôlée par le géant canadien Sherritt, numéro 1 mondial du nickel. Les mineurs ont cessé le travail après le décès d'un collègue malade selon les autorités et la direction. Le conflit est envenimé par le récent emprisonnement de deux employés accusés de vol de carburant. Le personnel dénonce aussi la présence sur le site de radiation de rayons X nuisibles pour la santé. Une médiation doit avoir lieu vendredi au ministère du Travail. Les smartphones dopent le commerce électronique en Afrique, mais le continent reste à la traîne par rapport aux autres régions du monde. Note un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. La situation est préoccupante, d'autant que les craintes face à la cybercriminalité augmentent, ce qui freine les transactions. On écoute Cécile Barret El Chami, experte du commerce électronique à la CNUSED.
La particularité de l'Afrique, c'est qu'effectivement, il y a un commerce électronique naissant, mais l'Afrique souffre d'un faible niveau encore de pénétration d'Internet, ainsi que la livraison postale. Donc, c'est les deux critères qui font défaut. On sait aussi que les cartes de crédit, la pénétration des cartes de crédit en Afrique est faible.
Et l'Union européenne a définitivement levé mardi les restrictions imposées à la coopération avec la Guinée-Bissau après les troubles de 2011. Une levée de sanctions à la veille d'une conférence internationale à Bruxelles pour attirer l'aide vers ce petit pays d'Afrique de l'Ouest.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Et j'accueille Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
Série de matchs amicaux aujourd'hui pour les sélections africaines.
Les Lions indomptables qui affrontent la sélection indonésienne. Et puis le Ghana face à la Namibie. Les Super Eagles du Nigeria contre l'Ouganda. Les Sud-Africains pour un déplacement face au Swaziland. Et puis le choc en France à Paris. Le Mali contre le Gabon sans Alain Giresse, puisque le nouveau sélectionneur du Mali ne prendra officiellement ses fonctions que le 1er avril.
À suivre aussi Danemark, États-Unis et Allemagne, Australie. Et Nicolas, on reste en Europe hein, où Michel Platini a été réélu à la tête de l'UEFA.
Michel Platini a été reconduit par acclamation pour un troisième mandat de 4 ans à la présidence de l'UEFA. À 59 ans, le triple ballon d'or a été désigné en marge du 39e congrès de l'UEFA à Vienne. Élu pour la première fois en 2007, Platini n'avait aucun adversaire. Le Français est aussi revenu sur l'instance mondiale, la FIFA, et a rejeté toute dissension entre les deux organisations.
Cette réélection me permet également de rester vice-président de la FIFA pour les 4 prochaines années. Ce n'est bien évidemment pas un but en soi, loin de là même, mais je tenais toutefois à dire que la FIFA, nous l'aimons profondément. L'Europe du football aime profondément la FIFA. C'est précisément parce que nous l'aimons et la respectons que nous aimerions qu'elle soit parfaite. Certains essayent peut-être de nous monter les uns contre les autres, de diviser pour mieux régner. Certains essayent d'isoler l'arrogante et égoïste Europe, mais ne croyez pas tout ce que l'on veut vous dire. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier et féliciter les fédérations européennes qui ont permis aux différents candidats de se lancer dans la course. Dans un système verrouillé où certains avaient déclaré qu'ils n'autoriseraient personne d'autre que le président sortant de se présenter, vous avez assumé publiquement vos positions. Et c'est un fait remarquable à souligner et je vous en félicite.
Michel Platini, président de l'UEFA.
Était également présent Joseph Blatter, président en exercice de la FIFA depuis 1998, qui brigue un cinquième mandat.
Oui, Bagassi, 3 candidats, vous le savez, se sont déclarés contre lui. Michael Van Praag, président de la Fédération néerlandaise de football. Luis Figo, ancien ballon d'or portugais. Et le prince Ali de Jordanie. Ce dernier a estimé que la FIFA devait quitter son fonctionnement autoritaire. Il y a une volonté de changement. La FIFA doit être à la hauteur, a expliqué celui qui est vice-président de la FIFA lors du discours prononcé devant ce congrès de l'UEFA à Vienne.
Championnat d'Afrique de beach soccer.
Le Ghana, l'Égypte, Madagascar et la Côte d'Ivoire ont décroché leur ticket pour la phase finale qui aura lieu du 14 au 19 avril prochain aux Seychelles. Le Ghana a dominé l'Ouganda 12-2. L'Égypte a sorti la Tanzanie sans coup férir grâce à une victoire 9-4. Madagascar, double vainqueur de l'Afrique du Sud à Durban, 5-1. Et enfin la Côte d'Ivoire qui a écarté l'île Maurice, 12-2. Ces nations rejoignant phase finale le Nigeria qui a bénéficié du forfait de la Libye et les Seychelles, pays organisateurs. Enfin Bagassi, quelques mots de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Nicolas, hier soir, il y avait plusieurs matchs hein, au programme, à commencer par cette défaite de Toronto face aux Pistons de Détroit, 104 à 108, victoire à l'arraché de Milwaukee qui affrontait Miami 89 à 88. Les Lakers de Los Angeles n'ont pas pu tenir face à la force de frappe d'Oklahoma City, 107 à 127 dans le derby texan. C'est Dallas qui a pris le dessus en battant San Antonio, 101 à 94. Et puis enfin, cette victoire hein, des Sacramento Kings qui ont battu Philadelphie, 107 à 106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Courant, votre compagnie pour cette édition du mercredi 25 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. Les Nigérians se rendent aux urnes samedi pour les élections présidentielles et législatives retardées par des problèmes de sécurité. La police fédérale et la commission électorale assurent que tout est mis en œuvre pour un scrutin paisible et crédible. Les précisions d'Issia Kaba.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Ataïru Djega, est formel. Les élections de samedi seront les mieux organisées de l'histoire du Nigeria.
Let me also reassure that INEC and all its field officials.
Laissez-moi vous assurer que la CENI et ses responsables sur le terrain sont déterminés à être impartiaux et non partisans dans la conduite de ces élections. Nous continuerons de faire tout ce qui est humainement possible pour assurer un traitement égal de tous les partis et candidats. Il s'agit des premières élections nigérianes basées sur un recensement biométrique des électeurs. L'espoir est que cette nouvelle technologie empêchera le bourrage d'urnes, les votes multiples et autres fraudes. La CENI a révélé que l'enregistrement des électeurs par ce moyen a déjà permis de supprimer plus de 4 millions de doublons. Selon le président de la CENI, 82% des électeurs ont déjà retiré leur carte biométrique. Des appareils électroniques permettront de vérifier la photo et les empreintes digitales de chaque électeur. Certains partis s'opposent à l'utilisation de ces appareils, estimant que le piratage, le vol ou un mauvais fonctionnement pourraient empêcher le vote de certains électeurs. La CENI a organisé des séances publiques de démonstration des nouvelles machines et selon son président, l'unique difficulté rencontrée était liée à la lecture de certaines empreintes digitales. Cela n'empêchera personne de voter, a assuré le président de la CENI.
If fingerprint scanning failed,
si la lecture d'empreintes digitales échoue, mais si la présence physique de l'électeur est authentifiée par les scrutateurs des partis et tous les observateurs, une fiche d'incident est remplie et l'électeur en question est autorisé à voter. Et cela est conforme à l'accord que nous avons conclu avec tous les partis politiques. De son côté, l'inspecteur général de la police nigériane, Suleiman Abba, a fait savoir qu'il y aura au moins 3 policiers à chacun des 120 000 bureaux de vote.
Enough arrangements have been made for security at these polling units.
Il y a eu suffisamment d'arrangements en ce qui concerne la sécurité des bureaux de vote et aussi le matériel. Nous ferons tout ce qui est possible pour protéger l'intégrité des résultats afin qu'ils soient acceptables par tous. L'inspecteur général de la police nigériane a appelé les politiciens et les électeurs à la retenue pendant et après le vote. Selon les sondages, le président sortant Goodluck Jonathan est au coude à coude avec l'ancien dirigeant militaire Muhammadu Buhari. Des violences déclenchées par des accusations de fraude après les élections de 2011 avaient fait quelques 800 morts dans le nord du pays.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars. Enjeux et acteurs clés, le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekau jouera-t-il le trouble fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Direction la Centrafrique, où le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Romaric Vomitiade, a été placé lundi sous mandat de dépôt suite à une affaire de viol sur une mineure de 16 ans à Yaloké, dans le nord-ouest du pays. Pour le ministre de l'Administration du Territoire et porte-parole du gouvernement, Modibo Bachir Walidou, l'arrestation des membres du gouvernement en fonction répond à la volonté de la chef de l'État de la transition, Catherine Samba-Panza, de lutter contre l'impunité. Écoutons-le au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Dès le déclenchement de cette affaire, le gouvernement a fait une déclaration pour dire qu'il ne s'oppose pas à ce que le membre du gouvernement mis en cause soit traduit en justice et même pas pouvoir expliquer sur ce dont on l'accuse. De plus, le ministre Vomikabe avait lui-même exprimé le besoin d'être entendu par la justice de son pays afin de pouvoir lever tout équivoque sur ce dont on l'accuse. Donc, à tous les niveaux, le gouvernement n'a pas d'inconvénient du tout à ce que la procédure judiciaire suive son cours normal et que tout soit fait dans les règles de l'art. D'ailleurs, il semble que la procédure en cette matière est faite de la façon la plus normale. Et donc, pour le gouvernement, il n'y a vraiment pas de quoi s'opposer, de quoi avoir des préoccupations quelconques.
C'est la première fois qu'un membre du gouvernement en fonction, bien sûr, soit mis sous mandat de dépôt. Est-ce là un indicateur de la lutte contre l'impunité préconisée par la chef de la transition, Mme Catherine Samba-Panza?
Oui, et ça, c'est vraiment très important que vous l'ayez souligné, parce que de l'histoire de notre pays, je ne crois pas me souvenir d'un cas où un membre du gouvernement en pleine fonction ait été mis sous mandat de dépôt et traduit en justice de manière à ce qu'il y ait un procès le concernant. Ça, c'est la première fois que cela se produit et ça, à mon avis, ce n'est pas quelque chose d'étonnant dans la mesure où la présidence de la République de transition a à plusieurs reprises indiqué que dans son régime, il ne sera pas question d'impunité, il ne sera pas question de protéger qui que ce soit lorsque le cours normal de la justice rattrape quelqu'un des personnalités les plus influentes du pays.
C'était le ministre centrafricain de l'administration du territoire et porte-parole du gouvernement, Modibo Bashir Walidou.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
L'accès à l'eau potable fait partie des plus grandes réussites des objectifs du millénaire pour le développement. C'est ce qu'a déclaré l'UNICEF à la veille de la Journée mondiale de l'eau. Mais pour 748 millions de personnes dans le monde, l'accès à ce service essentiel demeure un véritable défi. C'est la déclaration de l'UNICEF à l'occasion de la Journée internationale de l'eau qui est célébrée le 22 mars de chaque année. La RDC, selon l'UNICEF, fait partie des trois pays d'Afrique où la moitié de la population n'a pas accès à des sources aménagées d'eau potable. Reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des habitants de la ville de Kinshasa, dont leur majorité ne prennent que de l'eau fournie par la régie des eaux, une société publique, John Kalombo, habitant la partie est, juge cette eau impropre à la consommation, mais n'a pas d'autre choix.
L'eau que nous buvons là, mais c'est une eau qui est impure, impropre à la consommation. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas de moyens. Il n'y a pas de solution de réchange.
Robertson Kumumba, fonctionnaire de l'État, habitant la commune de Limete, fait plutôt confiance à l'eau lui fournie par la société publique.
Nous constatons qu'effectivement, il y a l'eau pure que nous buvons. Cette eau qui vient de la régie des eaux, parce qu'on dit, cette eau-là est traité d'une façon ou d'une autre, tant mieux. Mais au moins, il faut nécessairement qu'il y ait des usines qui sont appropriées au traitement d'eau, qui permettent à ce que les gens qui la consomment aient la force, l'énergie et puis l'endurance, parce que l'eau donne la vie. Nous avons de l'eau, effectivement, nous voulons dire que l'eau est bien traitée, parce que l'eau de la régie des eaux n'accuse pas autant d'handicap par rapport à d'autres matières, ou alors par rapport à d'autres produits qui se traitent à travers la ville de Kinshasa, notamment les usines de traitement d'eau qu'on appelle l'eau pure et consort.
Adeline Lemba préfère de l'eau minérale à celle de l'entreprise publique.
Je crois minéral, parce que la plupart de ces tuyaux sont défectueux, alors que l'eau de la région sent une odeur parfois qui laisse à désirer.
Est-ce que vous êtes rassuré que l'eau minérale est de bonne qualité par rapport à celle de la région des eaux?
Bon, je ne suis pas de l'ECC pour le juger, mais entre les deux, je crois que celle minérale est le moindre mal.
Vous détenez quel élément pour le confirmer?
En tout cas, l'eau de la région, nous la consommons chaque jour et nous sentons ce que nous sentons.
Et donc il y a une différence entre l'eau de la région des eaux et de l'eau minérale qui est des fois fabriquée aussi à la cité?
Bon, à la cité, qu'il faut voir dans les sachets, je ne prends pas mettre de l'eau embouteillée, ok.
L'eau coule difficilement dans certains quartiers de la capitale. Dans des quartiers où l'eau ne coule plus, des ménages recourent à l'eau des puits ou des sources. Kinshasa, Cyril Milando, Top Congo FM pour la Voix de l'Amérique.
Voilà, cela fait un an que l'épidémie a été déclarée en Guinée, l'épidémie d'Ebola bien sûr, une occasion pour le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de lancer ce lundi à Conakry une campagne mondiale de sensibilisation intitulée « Des mots contre Ebola ». Le but est de promouvoir la connaissance de la maladie pour mieux lutter contre la désinformation et la stigmatisation. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Le chanteur guinéen Sekou Babambino Diabaté, à l'occasion du lancement lundi à Conakry d'une campagne mondiale des mots MOT contre Ebola.
Merci à la Croix-Rouge d'abord me choisir en tant qu'ambassadeur. Tant qu'on n'en finit pas avec Ebola, aucun pays sera à l'abri du virus. Donc moi je crois qu'il faut se donner la main pour combattre et lutter.
12 mois après la déclaration d'Ebola, la Guinée lutte toujours contre le virus pour mettre fin à l'épidémie. Rabiatou Sira Diallo, ancienne présidente du Conseil national de transition, propose.
Il faut créer l'émulation. Au lieu de partager l'argent ou les véhicules, tout ce qui s'ensuit n'importe comment, créer l'émulation entre les régions, entre des quartiers, entre les familles.
L'épidémie semble sous contrôle, mais pour Yann Bonzon de la CICR, il faut continuer la sensibilisation.
Si nous nous engageons sur la voie de l'excès de confiance ou succombons à la lassitude, nous pourrions nous retrouver face à une catastrophe silencieuse, endémique, qui à l'approche de la saison des pluies ne fera que rendre l'accès aux collectivités encore plus difficile.
Les mots contre Ebola est une initiative du Comité international de la Croix-Rouge avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont le représentant à la cérémonie a insisté sur la sensibilisation afin d'éradiquer Ebola. Lamine Faye.
Il y a les désinformations, c'est-à-dire il y a toujours des endroits où les gens n'ont pas encore reçu suffisamment de sensibilisation par rapport à la cause ou bien aux causes et les conséquences de Ebola.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Vous l'avez compris, il y a une page culturelle dans cette édition. Notre envoyé spécial à Niamey, Idriss Fala, a rencontré une chanteuse pour l'unité africaine. Elle s'appelle Magali et elle est aussi militante pour les droits des femmes.
Magali. Je chante un peu en français. Il y a des chansons que je fais pour l'Afrique, d'autres pour le commérage, d'autres pour les femmes.
Pour les femmes, vous chantez quoi?
Je chante pour que les femmes ne restent pas comme ça, sans rien faire, de chercher à faire quelque chose, quoi.
Mais j'ai constaté à Niamey, presque toutes les femmes portent le voile. Vous n'avez pas le hijab. Pourquoi?
Non, c'est pas obligé de porter le voile. C'est quand la personne veut, c'est conseillé dans l'islam, mais c'est pas obligatoire.
Quels sont les plus gros problèmes les femmes font face ici au Niger?
Bon, au Niger, que les femmes, c'est dans le mariage qu'elles ont des problèmes. C'est pas qu'on maltraite les femmes au Niger. C'est qu'on ne connaît même pas nos valeurs, quoi. La faute vient des femmes.
Mais comment le mari a 3-4 femmes, en quoi est-ce qu'elle souffre pour ça?
Oui, c'est la raison pour laquelle elle souffre. Il y a la jalousie et tu ne sais pas comment te prendre.
Si je vous demandais là spontanément de faire une chanson à l'honneur des femmes du Niger.
Bon, ça. Adadi miya kabarokono. Aure ya zamo wala kanti arme ya zamo kiyaya en uwa na ku gane arme ibada ne arme amana ne arme alkawali ne.
Et qu'est-ce que vous venez de dire là?
C'est un proverbe haoussa, quoi, qui dit de le bonheur, de des bonnes choses, qu'est-ce qui amène le piment, quoi. Donc dans le mariage, pourquoi il y a des malentendus, des trucs comme ça, quoi? Il faut qu'on sache que le mariage, tu cherches un agrément auprès de Dieu, quoi. Et c'est une confiance et c'est un engagement que tu as pris. Donc il faut respecter ça.
Tellement qu'ils sont fiers de leur continent, même étant morts, ils ne veulent pas vivre en Afrique. Pourquoi pas nous, Africains? Unissons-nous et bâtissons notre chère Afrique. Terre Afrique, Joe, Inamen. Ter Afrique joi di peme. Ter Afrique joi apame.
Voilà, vous êtes à l'écoute de VOA Afrique au micro ce matin. C'était Bagassi Koura et Anne Alberson. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Au cœur de l'info sur VOA.